Bonjour, et pour commencer, deux remarques avant de me lancer dans le cours d'aujourd'hui. D'une part, je crois qu'on vous a distribué un questionnaire à l'entrée, à rendre à la sortie de ce cours, qui est une enquête que mène le Collège de France sur ses auditeurs, pour mieux savoir qui assiste à nos cours. Donc, si vous voulez bien répondre, eh bien, cela pourra nous être utile. Seconde remarque, on m'a dit après la semaine passée que j'avais donné un peu trop de matière, fourni des citations parfois un peu trop longues, et c'est peut-être lié au fait que cette année j'ai commencé à utiliser cette nouvelle technique pour vous montrer des textes. Je crois que c'est utile, notamment avec Montaigne. Je ne l'avais pas fait dans le passé, mais comme il y a souvent des questions de langue, il faut lire attentivement les textes et faire attention à la langue, aux mots, à la syntaxe, mais peut-être qu'il est vrai que la semaine dernière j'ai donné trop de citations, peut-être trop longues, et je vais essayer de les réduire pour que vous ne passiez pas votre temps à lire des citations à l'écran. Troisième remarque, faisons le point. Nous avons donc, au cours des trois leçons qui ont précédé, parlé de l'écriture de la vie dans les essais de Montaigne, et nous avons commencé en parlant de la présence de l'histoire et des historiens, de cette prédilection de Montaigne pour l'histoire, souvent affirmée, et nous avons tenté de montrer que c'était une prédilection pour les vies, pour l'écriture des vies dans l'histoire, et non pas, ou beaucoup moins, pour l'écriture des guerres, des batailles, des victoires et des défaites. Montaigne s'intéresse, je crois qu'on l'a vu dans une série d'exemples, aux grands hommes sans doute, puisque l'histoire parle d'eux, aux hommes illustres, mais non pas comme à des patrons, comme à des exemples à imiter. Et la semaine passée, nous avons donc insister beaucoup sur cette distinction que fait Montaigne et qui est très essentielle à ses yeux entre ce qu'il appelle les conseils et les événements. Les conseils, c'est-à-dire les délibérations, les décisions qui résultent des délibérations, et les événements sur lesquels, eh bien, nous n'avons pas véritablement prise puisqu'ils dépendent aussi de la fortune. Montaigne s'intéresse donc au conseil, au jeu de la délibération et de la décision, à la façon dont on prend conseil, c'est-à-dire dont on prend parti. Il s'intéresse, comme on l'a vu aussi, donc au dedans plutôt qu'au dehors dans l'histoire. Et enfin, la semaine passée, nous avons insisté, et nous allons y revenir, sur cette gradation que Montaigne perçoit chez les historiens entre les simples, ceux qui témoignent, qui disent ce qu'ils ont vu fidèlement parce qu'ils sont simples, et puis il y a les très fidèles, les historiens supérieurs qui sont philosophes, les historiens philosophes qui savent juger. Et Montaigne se méfie fortement de tous ceux que l'on trouve dans l'entre-deux. Nous avons parlé la semaine passée, parmi ces historiens philosophes, de Plutarque, de Sénèque et de Tacite pour l'essentiel, puisque ce sont des historiens des vies, c'est-à-dire des mœurs, des caractères, des tempéraments. Ils cherchent la forme maîtresse, derrière chacun des hommes illustres dont ils parlent, derrière les événements et surtout derrière les conseils. Alors finissons-en aujourd'hui avec ce premier moment, et je voudrais reprendre les deux chapitres que j'évoquais, que je commentais la semaine passée, c'est-à-dire de la colère, 2.31, suivi de défense de Sénèque et de Plutarque, justement, 2, 32, qui sont des chapitres groupés. Les chapitres des essais n'ont pas véritablement d'ordre, et toutefois, il y a des grappes, des séries, et celle-ci est tout à fait reliée par, notamment, Plutarque. Vous vous souvenez que j'évoquais la dernière fois ce chapitre de la colère à propos de Plutarque qui faisait fouetter l'un de ses esclaves et l'esclave lui reprochait de se mettre en contradiction avec ses écrits. Le thème du chapitre était donc cette contradiction entre le dire et le faire. Le dire est autre chose que le faire, écrit Montaigne. Il faut considérer le prêche à part et le prêcheur à part. C'est sans doute une belle harmonie quand le faire et le dire vont ensemble. Belle harmonie. Le mot est important, il reviendra souvent pour désigner cette concordance, cette consonance chez un homme entre le discours et les actions. Montaigne, on le sait, observe les contradictions humaines. Il y est très sensible, et en particulier chez les grands hommes, chez les hommes illustres. Il est à l'affût de ces incohérences, et bien sûr, chez lui-même aussi. Mais même s'il est tout le temps question de diversité dans les essais, de discordance, de dissonance humaine, nous ne pouvons pas négliger qu'il est aussi soucieux de cohérence, de conformité, d'harmonie, justement, de caractère. Et c'est sans doute parce qu'il est soucieux de chercher cette consonance, cette rare consonance où elle se trouve, qu'il décrit avec tellement de détails les dissonances. Or, on l'avait dit la semaine passée, Plutarque était cohérent hein, lorsque son esclave l'accusait tout en étant battu et qu'il lui disait qu'il était tout plongé en la colère lorsqu'il le faisait si cruellement battre et que cela démentait entièrement ses écrits. Plutarque répliquait qu'il le faisait fouetter sans colère. Et donc nier cette contradiction de son caractère. Alors j'ai dit, allant vite et anticipant beaucoup à ce propos, la semaine passée, qu'il ne fallait donc pas déduire de cette reconnaissance par Montaigne de la diversité des vies. Pensons particulièrement au premier chapitre du livre 2 des essais qui s'appelle « De l'inconstance de nos actions » et qui est en entier sur cette incohérence humaine, sur ce que Montaigne appelle la variation et contradiction qui se trouve en nous et un peu plus bas dans le même chapitre, la volubilité et discordance, toujours ce couple, variation, volubilité, contradiction, discordance. Non seulement nous sommes divers, beaucoup de facettes, mais ces facettes sont discordantes ou contradictoires. Eh bien, n'en déduisons pas que Montaigne accepte si aisément l'incohérence et qu'il ne recherche pas, justement, dès ce chapitre 2.1, ce qu'il appelle un certain et assuré train. Il y a donc des hommes qui ont ce certain et assuré train, autrement dit, qui savent où ils vont, avec l'assurance d'une direction. Mais Montaigne ajoute aussitôt qu'il n'a trouvé ce certain et assuré train qu'en une douzaine d'hommes de l'Antiquité. En toutes les vies qu'il a lues, chez tous les philosophes et chez tous les historiens, une douzaine d'hommes cohérents, entièrement cohérents, en harmonie avec eux-mêmes, entre leurs discours et leurs actions. Et Montaigne, là aussi, parle justement d'harmonie. telle, dit-il, l'harmonie de son très accordant qu'il reconnaît chez le jeune Caton. Le jeune Caton, modèle, il y a tout un chapitre sur le jeune Caton dans le livre 1 des essais. Le jeune Caton, c'est au fond, à travers tous les essais, le modèle de l'homme concordant, de l'homme qui n'offre pas de son discordant. Il y a chez lui l'harmonie de son très accordant. Vous voyez que les termes harmonie reviennent souvent pour désigner cette unité humaine. Mais chez tous les autres, il y a quelque apparence de faire jugement d'un homme par les plus communs traits de sa vie. Autrement dit, c'est la plupart du temps ce que font les historiens, ce que font les philosophes. Ils cherchent à ramener une vie à un nombre réduit de traits communs. Mais vu la naturelle instabilité de nos mœurs et opinions, il m'a semblé souvent que les bons auteurs même ont tort de s'opiniâtrer à former de nous une constante et solide contexture. Ils choisissent un air universel, et dans l'air universel, bon, il y a peut-être encore la musique, et suivant cette image, vont rangeant et interprétant toutes les actions d'un personnage, et s'ils ne les peuvent à cet ordre, ils les vont renvoyant à la dissimulation. Je crois des hommes plus mal aisément la constance que toute autre chose et rien plus aisément que l'inconstance. Affirmation donc de cette inconstance humaine et une déclaration très forte, mais on en trouverait mille exemples à travers les essais au début, à la fin du livre 1 et du livre 2. Et pourtant, ne négligeons donc pas que, mettant l'accent sur cette absence de constance, de contexture, de trait commun, ce trait auquel on peut rapporter les actions d'une vie, insistant donc sur la discordance en chacun de nous, Montaigne n'en est pas moins en quête d'une certaine unité, d'une certaine constance. Et c'est celle-ci qui est identifiée à la sagesse. Une vie sage, c'est une vie qu'on peut rapporter à cette unité. Comme Montaigne décrit ainsi, toujours dans ce chapitre 2.1, de l'inconstance de nos actions, être constant, c'est vouloir toujours la même chose et ne pas vouloir toujours la même chose. Autrement dit, être constant pour Montaigne, c'est savoir ce qu'on veut et savoir ce qu'on ne veut pas. Mais c'est aussi la raison pour laquelle, dans les chapitres que j'ai évoqués, 2, 31 et 32, de la colère et défense de Sénèque et de Plutarque, c'est aussi la raison pour laquelle il se porte à la défense de ces deux hommes, de ces deux écrivains, qui figurent certainement dans la petite douzaine de ces hommes qui ont un certain et assuré train. On a donc vu que parmi cette petite douzaine, il y a Caton, il y a le jeune Caton, il y a Socrate, il y a César, qu'on a évoqué la semaine passée, il y a sûrement Épaminondas, et puis encore quelques autres. Il se porte à la défense de Sénèque et Plutarque parce que ceux-ci sont taxés d'incohérence, Plutarque en colère, ou encore, dans le chapitre sur la défense de Sénèque et de Plutarque, ils sont taxés par les uns et les autres de ne pas dire la vérité, de démentir, comme dit Montaigne. Et il écrit au début de ce chapitre, donc, « La familiarité que j'ai avec ces personnages ici, Sénèque et Plutarque, et l'assistance qu'ils font à ma vieillesse et à mon livre m'a sonné purement de leur dépouille, m'oblige à épouser leur honneur. En reconnaissance de la dette. De la dette, je mets un écran blanc pour que vous ne soyez pas distrait quand je ne vous montre pas la citation. Vous n'êtes pas en train de lire la précédente ou la suivante. Je fais des essais, on va voir comment tout ça. Bon, donc Montaigne ici reconnaît la dette immense qu'il a à l'égard de Sénèque et de Plutarque, non seulement lui, dans sa vie, hein, l'assistance qu'ils font à ma vieillesse et à mon livre. Il vit avec Plutarque et Sénèque, les deux étant inséparables, et c'est pourquoi il est leur obligé et il doit défendre leur honneur. Montaigne est leur familier, dit-il, il les connaît par leurs écrits, et puis on a vu aussi la semaine passée, à propos de cet épisode de colère, qu'il est à l'affût des moindres anecdotes qu'il peut lire à leur sujet, et l'anecdote sur la colère de Plutarque, cette colère légitime, il l'avait trouvée chez Olugel. C'était un conte d'Olugel. Il leur fait donc confiance et il les défend contre ce reproche de discordance entre le dire et le faire, ou encore de démentir. C'est ce qu'il évoquait tout à l'heure. S'il n'y a pas de cohérence, on dit que quelqu'un dissimule. C'est la solution. Ainsi, il défend Plutarque, notamment contre Bodin, Jean Bodin, je crois que je l'ai déjà cité la semaine passée, et sa méthode de l'histoire, qui l'accuse d'avoir écrit des choses incroyables et fabuleuses, c'est-à-dire des fictions, par opposition à des fictions, des fables, des choses fabuleuses, ce sont des fables, par opposition à ce que Montaigne appelle des contes. Quand Montaigne parle de contes, en général, le conte, c'est le fait divers, c'est la chose réelle. Le conte, c'est le récit d'une chose réelle par opposition à la fable. Et Bodin, notamment, reprend Plutarque à propos d'une anecdote extrêmement célèbre, c'est cette anecdote de l'enfant spartiate qui est rapportée donc par Plutarque, qui a volé un renard et qui l'a caché, c'est un petit renard, un renardeau qu'il a caché sous son manteau en raison de la morale extrême qui règne à Sparte, laisse ce renard lui déchirer le ventre plutôt que de le montrer. Et cet enfant en meurt, mais c'est l'exemple canonique de la morale spartiate, de l'éducation spartiate. Et Bodin dit que ce n'est pas croyable, que ce n'est pas possible, quelque chose de ce genre, et que ce courage, cette résistance à la douleur est invraisemblable. Et Montaigne, sur ce premier point, accumule les exemples qui contredisent Plutarque, exemples de fermeté extraordinaire qu'il trouve non seulement dans l'histoire, mais également dans sa propre expérience. Après avoir accumulé des exemples historiques, il y a des exemples dont il dit « je sais, j'en ai vu un, j'ai vu un paysan résistant à la douleur, j'ai connu, etc. » Et l'autre grief de Bodin contre Plutarque, c'est ce qu'il appelle ce que Montaigne appelle prévarication et fausseté, c'est-à-dire un préjugé systématique dans ses vies parallèles en faveur des Grecs contre les Romains, un préjugé anti-romain. Et sur ce second point, eh bien, Montaigne se porte aussi à la défense de ça doit être ceci, se porte à la défense de Plutarque et dit que en ses comparaisons, Plutarque en ses comparaisons, et la fidélité et sincérité des jugements égale la profondeur et le poids. Qui considérera la vérité de la chose et les hommes en eux-mêmes, à quoi Plutarque a plu viser et a balancé leurs mœurs, leur naturel, leur suffisance que leur fortune, je pense, au rebours de Bodin, que Cicéron et le vieux Caton en doivent de reste à leurs compagnons. Alors on y retrouve ce qu'on a déjà dit un certain nombre de fois sur cette conception de Montaigne. Ce qui l'intéresse, ce sont les hommes en eux-mêmes, à quoi Plutarque vise, leur mœurs, leur naturel, plutôt que la fortune. Et si l'on regarde de ce côté-là, eh bien, Cicéron, le parallèle est celui de Cicéron et de Démosthène. Cicéron doit s'incliner devant Démosthène et le vieux Caton lui-même doit s'incliner devant Aristide. Alors peut-être un mot à ajouter sur ce terme de suffisance, hein, leur naturel, leur suffisance que leur fortune, cette notion de suffisance qui résume les qualités intrinsèques de l'homme, son tempérament. Évidemment, ce n'est pas la suffisance au sens moderne, hein, de présomption ou de vanité, mais Montaigne emploie encore suffisance au sens de l'aptitude, la capacité, ce qui suffit pour faire quelque chose, ce qui est indispensable pour faire quelque chose. Par exemple, il dit de Socrate, que Socrate est admirable en fidélité et en suffisance. On y retrouve ce couple avec cette fidélité si importante dans l'éthique de Montaigne et dans la hiérarchie des vertus et des valeurs. Mais on comprend bien comment la suffisance au sens où Montaigne l'entend, hein, comme cette vertu profonde de l'individu peut se transformer en présomption au sens moderne. Lorsque Montaigne dit, c'est dans le chapitre de l'institution des enfants, hein, donc sur l'éducation, « fâcheuse suffisance qu'une suffisance purement livresque ». Lorsque la suffisance vient du dehors, vient des livres, elle est artificielle et non de la nature, non de la qualité intrinsèque de l'homme, eh bien elle devient cette sorte de vanité ou de présomption. La suffisance doit être naturelle. Montaigne dit encore, toute cette notre suffisance qui est au-delà de la naturelle est à peu près vaine et superflue. Donc c'est la suffisance empruntée, celle qui est vanité et présomption. Bon, en tout cas, Montaigne sauve ici Plutarque de ce grief, d'un préjugé en faveur des Grecs et de cette hostilité aux Romains. Il défend son équité, donc, notion d'équité est là, dans les parallèles. Il les approuve et il soutient que ces parallèles ne sont pas réducteurs des personnes. Et c'est ceci qui est à peu près la fin du chapitre. On retrouve cette idée, le trait, la notion de trait qu'on avait déjà aperçue dans De l'inconstance de nos actions. C'est folie de vouloir juger d'un trait les choses à tant de visages. Il est impossible de ramener toute une vie à un seul trait. Quand Plutarque les compare, donc les Grecs et les Romains, dans ces vies parallèles, il ne les égale pas pourtant. Il ne les égale pas pourtant. Qui plus discertement et consciencieusement pourrait remarquer leurs différences. Il y a donc un développement sur cet art subtil du parangon. Montaigne utilise le verbe parangonner. C'est le parangonner italien. Parangonner les hommes, les comparer. Et dans cette comparaison, il reconnaît les disparités individuelles. Plutarque ne les contrepèse pas entiers, il n'y a en gros aucune préférence, il apparaît les pièces et les circonstances l'une après l'autre et les juge séparément. Autrement dit, dans ces vies des hommes illustres, c'est un parallèle de circonstances, mais il n'y a pas de jugement total sur chacun des individus. C'est la chute du chapitre qui justifie donc Plutarque dans cette dialectique de la diversité et de l'unité, car, bon, j'y reviens encore, il ne me semble pas qu'il faille dire que Montaigne, si attentif aux diversités, si insistant sur les discordances, s'en satisfasse et ne soit pas en quête des individualités comme singularité. Chaque vie, c'est ce qu'il nous dit à propos de Plutarque, chaque vie doit être comptée dans la singularité de ce qu'il appellera sa forme maîtresse, son être universel. Terminons là ces considérations sur les historiens et l'écriture de la vie chez les historiens que lit Montaigne. Tous ces détails qu'il accumule, tous ces détails vécus dans la diversité, n'excluent pas sa volonté de saisir une vie comme un tout. Et passons à sa propre écriture de la vie. Il y a de nombreuses anecdotes qui sont rapportées dans les essais, lues, entendues, vues, vécues, des choses lues, des choses entendues, des choses vues. Et cela donne de nombreux contes, ce que j'appelais contes tout à l'heure, ou encore nouvelles, qui a le sens que nouvelle a la Renaissance, c'est-à-dire de faits, récits, de faits réels. Il y a de nombreuses petites narrations, de nombreux petits récits de vie. Et comme transition pour passer à cette écriture de la vie propre, de la vie en propre, je voudrais en venir à une anecdote, un cas que je prends dans un chapitre que j'ai déjà évoqué la semaine passée, c'est pour ça que je le prends là, mais on pourrait trouver ce genre d'anecdote ailleurs, c'est dans le chapitre « Divers événements de même conseil ». Vous vous en souvenez, chapitre 1.24, je l'ai évoqué la semaine passée à propos de ces mêmes décisions, ces mêmes conseils, ces mêmes partis pris qui ont des conséquences, des effets différents, opposés, contradictoires. Et les deux exemples sur lesquels démarrait ce chapitre, et à la vérité, ce qui constitue à peu près la totalité de ce court chapitre, c'était la magnanimité de François de Guise, Camus lui avait raconté, donc ça venait de l'histoire contemporaine, c'est François de Guise qui s'était montré magnanime envers Paul Trot-Méré au siège de Rouen auquel Montaigne avait d'ailleurs assisté. Donc c'est une histoire qui est toute proche de Montaigne déjà, que celle-là, et la magnanimité d'Auguste. Eh bien, les deux histoires étaient racontées par Montaigne en une sorte de chiasme. Il commençait par celle de François de Guise, puis passait à celle d'Auguste, et puis mener celle d'Auguste et de Cinna jusqu'à son dénouement, à savoir l'amitié, et puis raconter le dénouement contradictoire de la magnanimité de François de Guise, qui, quelques mois plus tard, serait mortellement blessé par l'homme qu'il avait épargné. Il y a donc l'exemple et le contre-exemple. Et le résultat, c'est en effet que le cours des choses est imprévisible et que la prudence qui consiste à prévoir le cours des choses est vaine. Et Montaigne aboutissait à cette leçon, eh bien, dans l'impossibilité de prévoir la vie, agissait avec assurance. Et l'assurance, c'était celle de César, avec confiance, assurance et confiance, puisqu'aussi bien nous ne maîtrisons pas la fortune, le cours des événements. Et bon, c'est évidemment un grand article de la morale de Montaigne, hein, cette morale de la fidesse, de la confiance, cette idée que la confiance oblige, qu'il faut faire un pari de confiance. Une formule, mais il y en aurait des milliers dans les essais, avec une antithèse, je me fie aisément à la foi d'autrui. Se fier à la foi. Bon, donc on a là un court chapitre avec deux cas de magnanimité aux conséquences opposées. Or, Montaigne ajoute en 1588, donc c'est un chapitre du livre 2, donc publié en 1580, il ajoute en 1588 un long développement à la fin de ce chapitre. C'est un développement qui, assurément, lui tient à cœur. Je vous montrerai tout à l'heure les corrections de l'exemplaire de Bordeaux, puisque c'est un développement qui est assez abondamment revu et corrigé dans l'exemplaire de Bordeaux. Et ce développement, c'est le compte d'une expérience personnelle, ou même de deux, puisque là aussi, il va y avoir deux expériences personnelles contradictoires sur la confiance qui commande la confiance, sur l'assurance qui commande l'assurance. Et, autre cas, sur la défiance qui entraîne la défiance. On a donc bien un exemple et un contre-exemple, et l'ordre, c'est celui du contre-exemple suivi de l'exemple. Contre-exemple de la défiance, exemple de la confiance, confirmant la thèse du chapitre ou l'infirmant. Et on retrouve toujours cette casuistique du pro et contra. Mais je crois que ce qu'on peut noter aussi, c'est que l'expérience vécue, puisqu'il s'agit d'une expérience vécue par Montaigne, c'est même une expérience très intense, on va le voir, très grave. Comme c'est souvent le cas, le récit d'expérience vécue intervient après coup, dans une addition, au moment de la relecture du chapitre de 1580. C'est à ce moment-là que l'écho d'une expérience vécue est ajouté. Et on va voir que dans ce cas-ci, bon, j'ai dit qu'il y avait deux expériences vécues. Dans la première, Montaigne est témoin, témoin oculaire. Et on a déjà signalé l'importance de cette notion du témoignage oculaire pour Montaigne. Et dans la seconde expérience vécue, il est acteur. Il est même le protagoniste central de l'épisode. Alors voici l'addition qui commence ainsi. J'exagère un peu en disant qu'elle commence ainsi, parce que il y a d'autres développements entre la fin initiale du chapitre et ce passage-ci. Comme vous savez, chez Montaigne, il n'y a pas de paragraphe, donc on ne peut pas dire exactement où les choses commencent, mais la rhétorique nous permet de comprendre où il y a un nouveau développement. C'est un excellent moyen de gagner le cœur et volonté d'autrui, de s'y aller, soumettre et fier. On gagne l'autre en lui faisant confiance, en se livrant à lui, en se soumettant à lui. Pourvu que ce soit librement et sans contrainte d'aucune nécessité et que ce soit en condition qu'on y porte une fiance, une confiance, fiée fiance, pure et nette, le front au moins déchargé de tout scrupule. Bon, on a donc une leçon de confiance, cette éthique de la main tendue, je vais vers l'autre et je l'oblige. Sans scrupule, quand même une condition, il faut avoir le front au moins déchargé de tout scrupule. Le scrupule, c'est le petit caillou, hein, la petite pierre qui peut vous gêner. Et Montaigne dit le front. Le front, c'est-à-dire l'apparence. Si on a un scrupule, si on a une inquiétude en allant vers l'autre, eh bien, il faut que cette inquiétude soit dissimulée. Si on montre cette inquiétude, le front, mais peut-être pas l'esprit déchargé de tout scrupule. Le front au moins déchargé de tout scrupule. Donc il ne faut pas montrer de doute, montrer d'inquiétude, le cas échéant, il faut la dissimuler. Alors on peut dire, c'est la préparation. Quand Montaigne raconte un épisode de vie, quand il raconte une anecdote, il ne commence jamais in medias res, il ne commence jamais un conte in medias res, le conte est toujours introduit par une réflexion générale. Le conte illustre la morale. Et puis, vous voyez que la phrase suivante est absolument sans aucun lien, sans aucune transition. Je vis en mon enfance un gentilhomme commandant à une grande ville, empressé à l'émotion d'un peuple furieux. Je vis en mon enfance. Je vis en mon enfance, c'est cette phrase qui m'arrête, qui est celle même du témoignage. En vérité, on la trouve assez souvent dans les essais. Une formule ou une variation sur cette formule. C'est une formule type d'introduction de choses vues. Je vis en mon enfance. Montaigne n'en dit pas beaucoup plus, mais le lecteur aura reconnu un événement important. Le lecteur contemporain et probablement le lecteur savant, puisqu'il s'agit d'un épisode historique, capital, gentilhomme commandant à une grande ville, empressé à l'émotion d'un peuple furieux. Il s'agit d'un événement historique qui a eu lieu durant la révolte contre la gabelle en 1548 à Bordeaux, après le rétablissement de l'impôt sur le sel par Henri II. Et le gentilhomme qui commandait une grande ville, en l'occurrence, c'était le lieutenant du roi de Navarre qui représentait le roi de France à Bordeaux, qui s'appelait Tristan de Monins et qui a été envoyé à Bordeaux pour apaiser l'émeute, le peuple furieux, et qui a été mis à mort par les émeutiers en août 1548. Il s'en est suivi une terrible répression par le connétable de Montmorency et les livres d'histoire, en particulier l'histoire de Thou, racontent en détail et la mort du gentilhomme, Tristan de Monins, et la répression qui a suivi. Or, Montaigne a assisté à cette scène mémorable. On ne peut pas oublier non plus que ça se passe à Bordeaux, ça se passe devant la mairie de Bordeaux, et le père de Montaigne était jurat, c'est-à-dire faisait partie du conseil municipal. Quelques années plus tard, il deviendrait maire. Montaigne, en 1548, avait 15 ans, et il a donc assisté à cette spectacle, à ce spectacle affreux, hein. Le gentilhomme Tristan de Monins a donc été saigné, écorché, dépecé par la foule et salé en vengeance puisqu'il s'agissait d'un impôt sur la gabelle. Je vous lis ce que j'ai trouvé chez De Thou, hein. Comme il mettait l'épée à la main pour se défendre, et tout ça est beaucoup plus développé que chez Montaigne, Montaigne ne dira rien. Comme il mettait l'épée à la main pour se défendre, les autres se jetèrent sur lui, le renversèrent par terre et lui ôtèrent la vie par une infinité de blessures, il était avec un de ses compagnons qui est aussi mis à mort. Les deux cadavres qui étaient entièrement défigurés à force de plaies, ils les jetèrent dans la rue où ils demeurèrent deux jours entiers dans la boue, exposés aux regards d'une populace furieuse, et le peuple furieux de Montaigne, c'est un cliché, qui se repaissait avidement de ce spectacle. Le père Daniel ajoute, témoin oculaire, qui ajoute que, joignant la raillerie à la cruauté, ils firent des ouvertures au corps de Monins en plusieurs endroits et les remplirent de sel pour marquer que c'était en haine de la gabelle qu'ils s'étaient révoltés. Et je trouve, c'est de tout, dans un écrivain du même temps, que les carmes qui, au bout de trois jours, entreprirent d'enlever de nuit ce corps mutilé, salé comme une pièce de bœuf et gisant sur le pavé, furent en danger de saccagement pour l'avoir enseveli honorablement. Épisode donc extrêmement marquant de l'histoire de la fin de l'enfance de Montaigne que ce spectacle. Mais Montaigne ne donne aucun renseignement sur l'homme et sur le lieu, rien sur les circonstances de l'événement. On sans doute peut-on s'interroger sur les raisons de cette extrême discrétion. C'est, je crois, le seul moment des essais où il fasse allusion à cet événement majeur de la vie de sa famille, de la vie de Bordeaux et de sa propre vie. Mais voici le passage dans l'exemplaire de Bordeaux. Vous voyez qu'il est considérablement retravaillé, ce qui marque l'importance des choses. Là, ce court épisode est largement réécrit dans cet exemplaire de Bordeaux. Pour éteindre ce commencement de trouble, voici la suite, hein, pour éteindre ce commencement de trouble, le gentilhomme qui était sorti, il prit parti de sortir d'un lieu très assuré où il était, en l'occurrence la maison de la ville, la mairie, et se rendre à cette tourbe mutine, peuple furieux, tourbe mutine, une sorte de gradation dans la fureur de cette populace, d'où mal lui prit et y fut misérablement tué. Vous voyez que Montaigne ne dit pas grand-chose, hein. Les faits bruts sont rapportés en une seule phrase, que voici, une phrase rapide, économique, sans détails et sans ornement. Et Montaigne indique tout de suite le dénouement. Tué, fut misérablement tué. D'où nous pouvons déduire que son objet n'est pas l'histoire, n'est pas le conte lui-même, n'est pas l'événement, en effet, mais son sens. On peut prendre cette phrase comme assez typique des petits contes de Montaigne, des petits moments de vie insérés dans les essais. Ce sont des phrases, tout tient en une phrase en général. Une phrase qui parfois est assez longue parce qu'il y a pas mal de petites choses à dire, mais c'est une phrase où s'accumulent tous les faits. Voici un bel exemple. Je l'ai pris par hasard, c'est celui de la première page des essais. Voilà comment Montaigne raconte une histoire, raconte une chose, un événement. Édouard, prince de Galles, celui qui régenta si longtemps notre Guyenne, personnage duquel les conditions et la fortune ont beaucoup de notables parties de grandeur, ayant été bien fort offensé par les Limousins et prenant leur ville par force, ne put être arrêté par les cris du peuple et des femmes et enfant abandonné à la boucherie, lui criant merci et se jetant à ses pieds, jusqu'à ce que, passant toujours outre dans la ville, il aperçut trois gentilshommes français qui, d'une hardiesse incroyable, soutenaient seuls l'effort de son armée victorieuse. Une phrase prolongée, rallongée par des participes présents. Il y a trois recours de Montaigne pour raconter des histoires brièvement, c'est l'infinitif, la position avec ses participes passés ou ses participes présents. Tout va donc très vite dans cette phrase. Ou dans celle-ci, c'est un des petits contes célèbres de Montaigne, chacun a ouï faire le conte du Picard, auquel, étant à l'échelle, c'est-à-dire sur l'échafaud, on présenta une garce, une femme, et que, comme notre justice permet quelquefois, c'est la grâce du condamné à mort, s'il la voulait épouser, on lui sauverait la vie. Lui, l'ayant un peu contemplée et aperçu qu'elle boitait, attache, attache, dit-il, elle cloche. Vous voyez que la phrase, le conte, l'anecdote est toute tenue dans une phrase. C'est toujours une phrase longue ou plus brève, mais vous voyez avec ces exemples, et surtout celui-ci, que Montaigne sait raconter une histoire. C'est faire un conte, c'est le type de l'anecdote ou de la nouvelle. Vous pouvez imaginer la réécriture de ces histoires avec des « et », où chaque action serait distinguée dans une proposition. Et très souvent, d'ailleurs, quand Montaigne emprunte l'anecdote à une source historienne, dans la source historienne, l'histoire n'est pas du tout racontée comme Montaigne la raconte. Montaigne supprime la succession des faits pour tout rassembler avec ses participes présents et ses participes passés. Et on peut dire aussi, sans doute, que ce style de l'anecdote à la Montaigne, c'est un peu celui de la magistrature, avec les attendus. En tout cas, vous le voyez, l'action, l'événement est ainsi résumé rapidement dans une phrase à la syntaxe brève pour aller à la réflexion, au sens. Et c'est ce que fait donc Montaigne ici. Il fut misérablement tué. Ce qui est important, c'est l'analyse du jeu, du conseil et de l'événement, du caractère et de la fortune. Son intérêt n'est pas pour les faits, mais pour les attitudes, la suffisance, l'aptitude à agir, les émotions. Mais, il fut misérablement tué, mais il ne me semble pas que sa faute fut tant d'être sorti. Sorti pour parlementer avec la foule furieuse. Il y a de nombreux chapitres des essais qui portent sur ce thème. Faut-il sortir d'une place assiégée? C'est le chapitre 1.5. Si le chef d'une place assiégée doit sortir pour parlementer, suivi du chapitre 1.6, l'heure des parlements est dangereuse. Parlementer, c'est dangereux parce qu'on sort de la place forte pour s'exposer justement à la confiance de l'ennemi, se livrer à lui. Et c'est un thème très très fréquent. On aura l'occasion d'y revenir dans cette morale des essais. Et c'est une question d'actualité dans la guerre civile, où tout le monde est un ennemi potentiel. Il ne me semble pas que sa faute fût tant d'être sorti, comme ainsi qu'ordinairement on le reproche à sa mémoire, et en particulier chez De Thoux. De Thoux, on voit qu'il dit que Monins employa les exhortations les plus douces et le ton le plus humble. Il s'humilia devant la foule. Donc Montaigne a la même argumentation. Il ainsi qu'ordinairement on le reproche à sa mémoire d'être sorti, comme ce fut d'avoir pris une voie de soumission et de mollesse, et d'avoir voulu endormir cette rage plutôt en suivant qu'en guidant et en requérant plutôt qu'en remontrant. Si vous voyez le passage, il est réécrit assez largement. Vous voyez que Montaigne a cherché les formules. Vous voyez ici, plutôt en flattant que commandant, réécrit au-dessus, en ce que j'ai dit, et et plutôt donc en suivant qu'en guidant, en requérant plus qu'en démontrant. Et là aussi, Montaigne hésite et trouve la très belle formule qu'il va retenir pour décrire l'attitude qui est nécessaire dans le Parlement, dans cette négociation, et estime, il avait d'abord écrit, et estime que la fermeté, l'autorité et une contenance de parole convenable à son rang et à la dignité de sa charge lui eût mieux succédé, réussi, au moins avec plus d'honneur et de bienséance. Bon, il serait peut-être mort quand même, mais il serait mort dans l'honneur. Estime que la fermeté, l'autorité et une contenance de parole, et Montaigne a corrigé en cette très belle formule qui est là, que vous avez du mal à lire, mais où il a écrit, et estime qu'une gracieuse sévérité avec un commandement militaire plein de sécurité, de confiance, convenable à son rang et à la dignité de sa charge, lui eût mieux succédé. Bon, il serait mort dans l'honneur. Montaigne simplifie beaucoup les événements. Montaigne simplifie beaucoup les événements, en particulier, vous voyez que l'événement devient très abstrait, l'anecdote de vie devient très abstraite. Montaigne, par exemple, ne dit pas que ce pauvre gouverneur qui a été mis à mort était accompagné par le grand-père de la femme de Montaigne, le président de la Chassaigne, qui était président au Parlement de Bordeaux, et à qui on avait confié ce gouverneur. Et puis, il conteste cette interprétation reçue. Monins n'aurait pas dû sortir pour parlementer avec les émeutiers, mais il met en cause sa résolution, sa détermination, son attitude passive, sa soumission, qui aurait eu pour effet d'exciter la foule contre lui. Bon, vous voyez que Montaigne recommence ce qui est écrit là-haut, à gauche, selon cette belle formule de gracieuse sévérité, une sorte d'oxymore, une formule contradictoire, et suit encore un commentaire assez long. Vous voyez que le commentaire se prolonge ici. Le commentaire se prolonge, et je crois que je l'ai là. Voilà. Il n'est rien moins espérable de ce monstre ainsi agité, bon, nouvelle gradation pour la populace, que l'humanité et la douceur. Il recevra bien plus tôt la révérence et la crainte. Je lui reprocherai aussi qu'ayant pris une résolution, tout ça est largement réécrit, hein, plutôt brave à mon gré que téméraire, de se jeter faible et en pourpoint, émis dans cette mer tempétueuse d'hommes insensés, nouvelle gradation pour cette foule, mer tempétueuse d'hommes insensés, il la devait avaler toute sa résolution, assumer sa résolution, et n'abandonner ce personnage là où il lui advint. Après avoir reconnu le danger de près, de saigner du nez, c'est simplement faiblir, hein, et d'altérer encore depuis cette contenance démise, humble et flatteuse qu'il avait entreprise en une contenance effrayé, chargeant sa voix et ses yeux d'étonnement et de pénitence, cherchant à cogner, c'est-à-dire à se cacher comme un lapin, et se dérober, il les enflamma et appela sur soi. Vous voyez que Montaigne rend cet homme, pour ainsi dire, responsable de sa mort et de son sort par ce comportement irrésolu. Mais l'événement dont les retentissements pour la ville de Bordeaux ont été immenses, hein, la ville a été sévèrement réprimée, elle a perdu ses privilèges, les jurats ont été suspendus, dont le père de Montaigne, le grand-père de sa femme, président de la Chassaigne, a été destitué et il n'a été réintégré qu'en 1560. On comprend bien que tout cela a dû être largement commenté, analysé, revécu, disséqué dans le milieu de Pierre Ekem, qui allait devenir maire de Bordeaux. C'est donc un événement crucial de la vie de Montaigne que celui-là. le connétable de Montmorency, arrivant à Bordeaux, a forcé les jurats, le conseil municipal, à déterrer Tristan de Meneins avec leurs ongles et à le réenterrer de manière religieuse. De Tout raconte cela en détail, hein, la répression sanglante qui a suivi cet épisode. Mais Montaigne, lui, n'en dit rien et suit, sans la moindre transition, le second événement vécu, sans la moindre transition, cherchant à cogner et se dérober, il les enflamma et appela sur soi. On délibérait de faire une montre générale des diverses troupes en armes. Pas de nouveau paragraphe, puisqu'il n'y a pas de paragraphe dans les essais, pas d'alinéa. Et voici pourtant le second cas, le contre-exemple du précédent, et cette fois c'est Montaigne qui se trouva dans une situation comparable que celle de Meneins et qui sentira mieux, qui sauva sa vie en 1585, lorsqu'il était à son tour maire de Bordeaux et dans un moment dangereux, très sensible, de tension entre la ville de Bordeaux et la Ligue catholique qui envenimait le climat politique et civil. Mais Montaigne ne se met pas davantage en avant dans son conte qui est aussi économique que le premier. Dans cette addition, donc, il commente son propre comportement, son propre exemple, à la lumière de l'histoire ancienne et contemporaine, Auguste, François de Guise, et puis de l'événement auquel il a assisté à la fin de son enfance. Évidemment, on peut penser que lorsqu'il s'est trouvé dans la même situation, il avait à l'esprit les événements de son enfance et peut-être son chapitre des essais. La règle de comportement générale qu'il écrit dans le chapitre, « Quiconque aura sa vie à mépris se rendra toujours maître de celle d'autrui. » Et puis, l'événement auquel il avait assisté. Voilà qu'on a donc dans cet épisode un exemple très concret de la relation du livre et de la vie, hein, de l'événement de vie personnelle qui intervient après coup et qui trouve sa place dans le livre, dans la continuité d'un chapitre, comme si en 1585, Montaigne avait eu en tête l'épisode de la mésaventure de Tristan de Meneins et son propre chapitre. Alors je vous lis vite le passage que je serai obligé de continuer à commenter la prochaine fois. On délibérait de faire une montre générale c'est-à-dire une revue de diverses troupes en armes. C'est le lieu des vengeances secrètes, une revue de troupes, et n'est point où, en plus grande sûreté, on les puisse exercer. Il y avait publiques et notoires apparences qui n'y faisaient pas bon pour aucun, auxquelles touchait la principale et nécessaire charge de les reconnaître. Autrement dit, d'inspecter les troupes. Ceux qui inspectaient les troupes étaient en danger d'être blessés mortellement par ces troupes. Il s'y proposa divers conseils, comme en choses difficiles et qui avaient beaucoup de poids et de suite. Toujours conseil au sens que nous avons vu. Le mien fut qu'on évitât surtout de donner aucun témoignage de ce doute et qu'on s'y trouvât et mêlât parmi les fils la tête droite et le visage ouvert. Comme d'habitude, c'est la recommandation d'assurance et de confiance. Et c'est, nous dit Montaigne, ce qui leur a sauvé la vie. Je continuerai cette analyse de cet épisode brièvement puisque je ne l'ai pas tout à fait fini, mais vous voyez l'intérêt de cette expérience vécue qui s'introduit dans le récit fait et qui le prolonge dans une espèce de dialectique de la vie et de l'histoire. Merci.